Chapitre 3. Le début de l'affaire. Dimanche 9 décembre, 7 jours avant le meurtre. L'avion était bloqué sur le tarmac de l'aéroport de Madrid. Par le haut-parleur, le commandant de bord avait annoncé aux passagers que d'importantes chutes de neige à Genève avaient obligé l'aéroport à fermer brièvement, le temps de déblayer la piste. L'affaire d'une demi-heure au plus avant que l'appareil puisse décoller. Ce qui n'était qu'un désagrément sans grande conséquence pour la plupart des voyageurs présents à bord semblait contrarier particulièrement Macaire et Besner, passagers de la classe affaires, assis au premier rang. L'œil vissé au hublot, il avala en deux gorgées la coupe de champagne que l'hôtesse lui avait offerte pour patienter. Il était nerveux. Quelque chose clochait. Il était convaincu que l'immobilisation de l'avion n'était pas due à la neige. Il l'avait retrouvé. Ils allaient venir le cueillir à bord de cet avion. Il le pressentait. Il était fait comme un rat, sans aucun moyen de fuir. Scrutant le tarmac par le hublot, il vit soudain une voiture de police qui roulait à vive allure en direction de l'appareil, les gyrophares enclenchés. Il sentit son rythme cardiaque accélérer. Il était pris. La veille, en milieu d'après-midi, dans le quartier de Salamanca, au centre de Madrid, Macaire et Pérez sortaient de la bouche de métro Serrano. Ils venaient d'identifier l'informateur et de récupérer les documents dans son appartement, avant de prendre la fuite en métro pour plus de discrétion. Mais en sortant de la rame, Pérez avait eu l'impression qu'ils étaient suivis. En remontant les escaliers vers la rue, il en avait eu la confirmation. « Ne te retourne pas !» ordonna-t-il à Macaire. « Il y a deux types qui sont sur nos talons depuis tout à l'heure. » Au ton de sa voix, Macaire comprit que c'était fini. Ils avaient pourtant appris à faire attention aux signes. Leur manque de vigilance allait leur coûter très cher. Macaire eut une poussée d'adrénaline. « Pars à droite !» lui dit alors Pérez. « Je vais partir à gauche. Je te retrouve à l'appartement plus tard. »« Je ne te laisse pas seul. »« Maintenant !» ordonna Pérez. « Fais ce que je te dis. C'est toi qui as la liste. » Ils se séparèrent. Macaire partit à droite et remonta la rue d'un pas rapide. Il aperçut un taxi arrêté sur le bas-côté qui venait de déposer un client et s'engouffra à bord. Le chauffeur démarra et Macaire se retourna. Pérez avait disparu. Macaire se fit déposer à la Puerta del Sol et se mêla au flot des touristes. Il entra dans une boutique de prêt-à-porter dont il ressortit intégralement changé au cas où on aurait donné son signalement. Ne sachant pas ce qu'il devait faire, il finit par appeler le numéro d'urgence. C'était la première fois en 12 ans qu'il l'utilisait. Il trouva une cabine téléphonique à proximité du Retiro et composa le numéro qu'il connaissait par cœur. Il s'identifia auprès du standardiste qui lui répondit et on lui passa Wagner qui lui annonça la mauvaise nouvelle.
« Pérez a été arrêté par la police espagnole. Ils n'ont rien contre lui, il va sortir. Il a un passeport diplomatique de toute façon. »«
J'ai la liste, » indiqua alors Macaire. « C'était bien notre homme. »«
Parfait. Brûlez cette liste et suivez le protocole. Retournez à votre appartement et rentrez à Genève demain comme prévu. Ne vous en faites pas, tout ira bien. »«
Très bien, » acquiesça Macaire. Avant de raccrocher, Wagner dit d'une voix presque amusée qui détonnait face à la gravité de la situation.
« Oh, puisque je vous ai au bout du fil, vous êtes dans le journal, c'est officiel. »«
Je le sais, » répondit Macaire presque agacé de la légèreté de son interlocuteur.
« Bravo !»
La communication prit fin brusquement. Suivant les consignes qu'il venait de recevoir, Macaire retourna à l'appartement en prenant toutes les précautions et brûla la liste. Il regrettait terriblement d'avoir accepté ce voyage qui devait être le dernier. Il craignait que ce ne fût celui de trop. Il avait tant à perdre. Sa femme, sa vie de rêve et la promotion qui l'attendait. D'ici une semaine, il serait président de la banque familiale, l'une des plus importantes banques privées de Suisse. Une indiscrétion avait filtré dans l'édition du week-end de la Tribune de Genève, parue le jour même. Il avait reçu des messages de félicitations de tout le monde. Sauf de sa femme, Anastasia, qui était restée en Suisse. Comme toujours pour ce genre de voyage, il s'était arrangé pour qu'elle ne vienne pas avec lui. Sur le tarmac de l'aéroport de Madrid, la voiture de police passa devant l'avion et continua sans s'arrêter le long de la route de service. Fausse alerte. Macaire s'affala sur son siège, soulagé. Soudain, L'avion s'ébranla et se mit à rouler lentement en direction de la piste de décollage. Lorsque, quelques minutes plus tard, l'appareil s'éleva enfin dans les airs, Macaire, se sentant hors de danger, poussa un long soupir. Il demanda qu'on lui serve une vodka et des cacahuètes, puis il déplia son exemplaire de la Tribune de Genève, glané parmi la sélection de journaux offerts à bord. En ouverture des pages économiques, il découvrit sa photo. Macaire Ebesner sera nommé samedi président de la banque Ebesner. Il n'y a plus de doute, c'est bien Macaire Ebesner, 41 ans, qui reprendra les rênes de la plus importante banque privée de Suisse, dont il est le seul héritier. La nouvelle a été confirmée à mot couvert par un membre influent de la banque qui a souhaité rester anonyme. « Seul un Ebesner peut diriger la banque Ebesner », a-t-il affirmé. Il réclama une autre vodka qu'il assomma. Il s'assoupit. Il avait cru fermer les yeux quelques instants seulement, mais lorsqu'il reprit ses esprits, l'avion était déjà en approche finale sur Genève. Il vit le contour ciselé du lac Léman et les lumières de la ville. Il neigeait abondamment, des flocons virevoltaient dans l'air. L'hiver était en avance et la Suisse s'était recouverte de blanc. Le vol de Madrid était l'un des premiers à se poser à l'aéroport de Genève après une longue interruption du trafic aérien due aux conditions climatiques. Il était 21h30 lorsque l'appareil toucha la piste qui venait d'être déblayée. Une fois débarqué, Macaire traversa rapidement les boyaux de l'aéroport qu'il connaissait par cœur, sa mallette à la main. Il quitta la zone d'arrivée d'un air dégagé. Les douaniers devant lesquels il passa ne lui posèrent pas la moindre question. La neige ayant perturbé l'activité aérienne pendant la dernière heure, à la sortie de l'aéroport, une longue file de taxis attendait de trop rares clients. Macaire s'installa à bord de la voiture de tête. Derrière le volant, le chauffeur reposa aussitôt le journal qu'il terminait d'éplucher. « Chemin de route, à Cologny », indiqua Macaire. Jetant un regard appuyé sur son client dans le rétroviseur, le chauffeur lui demanda alors, agitant son exemplaire de la Tribune de Genève, « C'est vous dans le journal, non ?» Macaire sourit, flatté qu'on le reconnaisse. « C'est bien moi. »«
C'est un grand honneur, monsieur Ebesner !»
lui dit le chauffeur, le regard plein d'admiration.
« C'est pas tous les jours que je transporte une vedette de la finance !»
Macaire, observant son visage dans le reflet de la vitre, ne put réprimer un large sourire. Il était au sommet de sa carrière de banquier. Oublié l'attention de Madrid, il était tiré d'affaire et son avenir était radieux. Il avait hâte d'être demain à la banque, hâte de voir la tête qu'ils feraient tous. Même si, au fond, son accession à la présidence était acquise depuis des mois, cet article allait faire jaser. À partir de demain, tout le monde allait lui cirer les bottes. Plus que quelques jours de patience. Samedi soir, lors du grand week-end annuel de la banque à Verbier, il serait élu à la tête du prestigieux établissement. Le taxi descendit la rue de la Servette, puis l'avenue de Chantepoulet, et traversa le pont du Mont-Blanc. Les rives du lac Léman scintillaient. Le grand jet d'eau, panache de la ville, s'élevait majestueusement au milieu des flocons. Genève, entre la neige et les illuminations de Noël, était féerique. Tout avait l'air si calme et si serein. La voiture remonta ensuite le quai du Général Guisan, puis continua vers Cologny, l'une des communes huppées de Genève, où Macaire vivait avec son épouse, Anastasia, dans une magnifique propriété dominant le Léman. Dans la cuisine des Ebesner, justement, à ce même moment, Arma, l'employé de maison, goûta le rôti de veau qu'elle faisait mijoter avec amour depuis des heures. Il était parfait. Elle regarda encore une fois avec admiration l'article du journal qu'elle avait posé sur le plan de travail pour lui tenir compagnie. C'était officiel. Moussieu serait élu président de la banque samedi prochain. Elle était tellement fière de lui. Elle ne travaillait jamais les week-ends, mais la veille, aussitôt qu'elle avait découvert l'article dans le café où elle avait ses habitudes, elle avait décidé de venir l'accueillir à son retour de Madrid. Elle savait qu'il serait seul car sa femme passait le week-end chez une amie. Mais Dame Anastasia n'aimait pas être seule dans cette grande maison quand son mari était en voyage d'affaires. Arma trouvait triste qu'il n'y ait personne chez lui à son retour pour célébrer une si grande nouvelle. Apercevant les phares du taxi qui pénétraient dans la propriété, elle se précipita dehors pour accueillir son patron, sans même prendre le temps d'enfiler son manteau malgré la neige qui tombait.
« Vous êtes dans le journal !»
s'écria-t-elle fièrement en brandissant l'article sous les yeux de Macaire qui s'extirpait du taxi. Arma, s'étonna-t-il, qu'est-ce que vous faites ici un dimanche?
Je ne voulais pas que vous rentriez chez vous dans une maison toute sombre et sans un bon repas.
Il lui sourit affectueusement.
Président, c'est donc officiel!
Se réjouit Arma. Elle s'empara de la mallette que le chauffeur sortit du coffre, puis elle suivit son patron qui pénétra à l'intérieur de la maison, tandis que le taxi repartait. À peine la voiture est-elle franchi le portail de la propriété des Ebesner qu'un homme apparut dans la lumière des phares. Le chauffeur s'arrêta et baissa la vitre.
« J'ai fait tout comme vous m'avez dit, »
indiqua-t-il à l'homme qui ne semblait pas se soucier de la neige qui tombait. « Vous lui avez montré l'article ?» demanda l'homme.
« Oui, j'ai suivi vos consignes à la lettre, »
jura solennellement le chauffeur qui attendait sa rétribution.
« J'ai fait semblant de le reconnaître tout comme vous m'avez dit. »
L'homme eut un air satisfait et remit une liasse de billets de 100 francs au chauffeur qui repartit immédiatement. Dans sa maison, installée à la table de la cuisine, Macaire se fit servir par Arma une belle tranche de rôti. Il était préoccupé, essentiellement à cause d'Anastasia. Il lui avait écrit un message pour lui dire qu'il était bien arrivé à Genève. Elle avait répondu laconiquement « Contente que ton voyage se soit bien passé. Bravo pour l'article dans La Tribune. Je rentre demain, plus prudent de ne pas conduire avec toute cette neige. » Relisant le message, Macaire se demanda qui mentait à qui. Lui-même, cela faisait 12 ans qu'il lui mentait. 12 ans que son secret lui brûlait les lèvres. Arma l'arracha à ses pensées.
« Je suis tellement heureuse pour vous, » dit-elle. « Quand j'ai vu l'article, j'ai presque pleuré. Président de la banque ! À Madrid, c'était pour le travail ?»« Oui, »
mentit Macaire. Il semblait ailleurs et ne prêtait pas la moindre attention à Arma. Elle finit par aller nettoyer les casseroles, furieuse contre elle-même.
Quelle idiote elle avait été de venir l'accueillir ce soir.
Elle pensait que cela lui aurait fait plaisir. Ça aurait été l'occasion de passer un moment privilégié ensemble. Mais il s'en fichait royalement. Il n'avait même pas remarqué qu'elle était allée chez le coiffeur et s'était mis du vernis sur les ongles. Elle décida de s'en aller.
« Si vous n'avez plus besoin de moi, monsieur, je vais y aller. »
« Bien entendu, filé Arma. Et merci pour ce succulent dîner. Sans vous, je serais allé au lit le ventre vide. Vous êtes une perle. »
À ce propos, vous n'oubliez pas que j'ai besoin de vous ici tout le week-end prochain.
Le week-end prochain ? S'étrangla Arma.
Oui, vous savez, c'est le grand week-end de la banque interdit aux épouses. J'ai des scrupules à laisser Anastasia toute seule de nouveau. 2 week-ends de suite, ça fait beaucoup. Vous savez combien elle déteste être seule dans cette grande maison. Vous pourriez même dormir dans l'une des chambres d'amis. Ça la rassurerait beaucoup.
Mais vous m'aviez donné congé dès vendredi prochain,
rappela Arma.
J'avais prévu de m'absenter jusqu'à lundi.
Ah, zut, j'avais complètement oublié. Pouvez-vous annuler vos plans?
S'il vous plaît, c'est très important pour moi de savoir qu'il y a quelqu'un ici avec Anastasia. Et puis, elle voudra peut-être recevoir des amis. Ce serait bien que vous soyez là pour tenir la maison et cuisiner. Je vous paierai le double pour chaque heure passée ici de vendredi à dimanche soir.
Même pour tout l'or du monde, elle n'aurait pas accepté. Ce week-end était très important pour elle.
Mais comme elle était incapable de refuser quoi que ce soit à son patron, elle accepta de mauvaise grâce. Lorsque Arma fut partie, Macaire s'enferma dans son boudoir, une petite pièce du rez-de-chaussée qui lui servait de bureau. Il décrocha un tableau du mur, une aquarelle représentant Genève, qui cachait un petit coffre-fort dont lui seul connaissait la combinaison. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un seul objet, un cahier. Depuis quelques semaines, il avait entrepris de consigner son secret, au cas où, pour que quelqu'un sache. Récemment, il s'était senti observé, surveillé. Les événements de Madrid semblaient lui donner raison. Depuis 12 ans, il avait pris beaucoup de risques. Écrire la vérité quelque part pourrait peut-être s'avérer utile. Il feuilleta son cahier. Les premières pages affichaient des colonnes de chiffres et des sommes d'argent, comme s'il s'agissait d'un document comptable. Peut-être de l'argent non déclaré, pourrait-on penser, si ce cahier tombait entre de mauvaises mains. C'était un leurre. Les pages suivantes semblaient toutes vierges, alors qu'elles étaient en réalité noircies de ses confessions. Pour plus de sécurité, Macaire rédigeait à l'encre sympathique. C'était un truc vieux comme le monde, mais qui marchait toujours. Au moyen d'un stylo à plume volontairement laissé vide d'encre, dont il trempait le bec dans une mixture à base d'eau et de jus de citron, tout ce qu'il inscrivait était aussitôt englouti par les pages. Celles-ci, pourtant remplies, restaient blanches. Si un jour Macaire voulait récupérer son texte invisible, il lui suffirait de placer les pages près d'une source de lumière et de chaleur, et tout son récit apparaîtrait alors. Au début, l'exercice était avéré laborieux, mais à force d'entraînement, sa main était devenue agile. Même sans voir son texte, Macaire rédigeait de façon parfaitement lisible. Il ouvrit son cahier, repérant la dernière page du texte qu'il avait écrit car elle était cornée, et trempa son stylo-plume dans le bol de jus de citron. Il ne remarqua pas l'ombre tapie dans l'obscurité, à quelques mètres de lui. Un homme l'épiait par la fenêtre du boudoir. L'homme resta immobile à observer Macaire pendant plus d'une heure. Il le regarda écrire, puis ranger le cahier dans le coffre derrière le tableau avant de quitter la pièce, sans doute pour aller se coucher, au vu de l'heure tardive. L'homme disparut alors dans la nuit, silencieux et invisible, se faufilant hors de la propriété en passant par-dessus le mur d'enceinte. La neige qui continuait à tomber se chargerait de recouvrir ses traces. Arrivé sur le chemin de route, l'homme monta à bord d'une voiture garée sur le bas-côté. Tout était désert. Il démarra et roula quelques minutes jusqu'à être suffisamment éloigné, puis il s'arrêta pour téléphoner. « Il est rentré chez lui, et il ne se doute de rien », assura-t-il à son interlocuteur. « Je me suis même arrangé pour qu'un chauffeur de taxi lui parle de l'article. »«
C'est une très bonne idée. Bravo. »«
Comment avez-vous réussi à faire paraître un article pareil, avec une photo en plus ?»«
J'ai mes relations. Le pauvre. Demain, il va tomber de haut. »
Un kilomètre de là, la façade de la maison des Ebesner s'éteignit bientôt totalement. Macaire, dans son grand lit, s'endormit rapidement du sommeil du juste, l'article à sa gloire posé à côté de lui. Il ne s'était jamais senti aussi heureux. Il était très loin d'imaginer que les ennuis ne faisaient que commencer.